Benassis était un homme de taille ordinaire, mais large des épaules et large de poitrine. Une ample redingote verte, boutonnée jusqu'au cou, empêcha l'officier de saisir les détails si caractéristiques de ce personnage ou de son maintien. Mais l'ombre et l'immobilité, dans laquelle resta le corps, servirent à faire ressortir la figure, alors fortement éclairé par un reflet des flammes. Cet homme avait un visage semblable à celui d'un satyre, même front légèrement cambré, mais plein de proéminences toutes plus ou moins significatives, même nez retroussé, spirituellement fendu dans le bout, même pommettes saillantes. La bouche était sinueuse. Les lèvres étaient épaisses et rouges. Le menton se relevait brusquement. Les yeux bruns et animés par un regard vif auquel la couleur nacrée du blanc de l'œil donnait un grand éclat, exprimaient des passions amorties. Les cheveux, jadis noirs et maintenant gris, les rides profondes de son visage et ses gros sourcils déjà blanchis, son nez devenu bulbeux et veiné, son teint jaune et marbré par des taches rouges, tout annonçait en lui l'âge de 50 ans et les rudes travaux de sa profession. L'officier ne put que présumer la capacité de la tête, alors couverte d'une casquette. Mais, quoique cachée par cette coiffure, elle lui parut être une de ces têtes proverbialement nommées têtes carré. Habitué par les rapports qu'il avait eus avec les hommes d'énergie que rechercha Napoléon à distinguer les traits des personnes destinées aux grandes choses, Genestas devina quelque mystère dans cette vie obscure et se dit en voyant ce visage extraordinaire: par quel hasard est-il resté médecin de campagne? Après avoir sérieusement observé cette physionomie qui, malgré ses analogies avec les autres figures humaines, trahissait une secrète existence en désaccord avec ses apparentes vulgarités, il partagea nécessairement l'attention que le médecin donnait au malade, et la vue de ce malade changea complètement le cours de ses réflexions. Malgré les innombrables spectacles de sa vie militaire, le vieux cavalier ressentit un mouvement de surprise, accompagné d'horreur, en apercevant une face humaine où la pensée ne devait avoir jamais brillé. Face livide où la souffrance apparaissait naïve et silencieuse, comme sur le visage d'un enfant qui ne sait pas encore parler et qui ne peut plus crier. Enfin la face toute animale d'un vieux crétin mourant. Le crétin était la seule variété de l'espèce humaine que le chef d'escadron n'eût pas encore vue. À l'aspect d'un front dont la peau formait un gros pli rond, de deux yeux semblables à ceux d'un poisson cuit, d'une tête couverte de petits cheveux rabougris auxquels la nourriture manquait, tête toute déprimée et dénuée d'organes sensitifs, qui n'eût pas éprouvé, comme Genestas, un sentiment de dégoût involontaire pour une créature qui n'avait ni les grâces de l'animal, ni les privilèges de l'homme, qui n'avait jamais eu ni raison ni instinct, et n'avait jamais entendu ni parlé aucune espèce de langage. En voyant arriver ce pauvre être au terme d'une carrière qui n'était point la vie, il semblait difficile de lui accorder un regret. Cependant, la vieille femme le contemplait avec une touchante inquiétude et passait ses mains sur la partie des jambes que l'eau brûlante n'avait pas baignée, avec autant d'affection que si c'eût été son mari. Benassis lui-même, après avoir étudié cette face morte et ces yeux sans lumière, vint prendre doucement la main du crétin et lui tâta le pouls. Le bain n'agit pas, dit-il en hochant la tête. Recouchons-le. Il prit lui-même cette masse de chair, la transporta sur le grabat d'où il venait sans doute de la tirer, l'y étendit soigneusement en allongeant les jambes déjà presque froides, en plaçant la main et la tête avec les attentions que pourrait avoir une mère pour son enfant. Tout est dit. Il va mourir, ajouta Benassi, qui resta debout au bord du lit. La vieille femme, les mains sur ses hanches, regarda le mourant en laissant échapper quelques larmes. Genesta lui-même demeura silencieux, sans pouvoir s'expliquer comment la mort d'un être si peu intéressant lui causait déjà tant d'impressions. Il partageait instinctivement déjà la pitié sans bornes que ces malheureuses créatures inspirent dans les vallées privées de soleil, où la nature les a jetés. Ce sentiment, dégénéré en superstition religieuse chez les familles auxquelles les crétins appartiennent, ne dérive-t-il pas de la plus belle des vertus chrétiennes, la charité, et de la foi le plus fermement utile à l'ordre social, l'idée des récompenses futures, la seule qui nous fasse accepter nos misères? L'espoir de mériter les félicités éternelles aide les parents de ces pauvres êtres et ceux qui les entourent à exercer en grand les soins de la maternité dans sa sublime protection incessamment donnée à une créature inerte qui d'abord ne la comprend pas et qui plus tard l'oublie. Admirable religion! Elle a placé les secours d'une bienfaisance aveugle près d'une aveugle infortune. Là où se trouvent des crétins, la population croit que la présence d'un être de cette espèce porte bonheur à la famille. Cette croyance sert à rendre douce une vie qui, dans le sein des villes, serait condamnée aux rigueurs d'une fausse philanthropie et à la discipline d'un hospice. Dans la vallée supérieure de l'Isère, où ils abondent, les crétins vivent en plein air avec les troupeaux qu'ils sont dressés à garder. Au moins sont-ils libres et respectés, comme doit l'être le malheur. Depuis un moment, la cloche du village tintait des coups éloignés par intervalles égaux, pour apprendre aux fidèles la mort de l'un d'eux. En voyageant dans l'espace, cette pensée religieuse arrivait affaiblie à la chaumière, où elle répandait une double mélancolie. Des pas nombreux retentirent dans le chemin et annoncèrent une foule, mais une foule silencieuse. Puis les chants de l'église détonnèrent tout à coup, en réveillant les idées confuses qui saisissent les âmes les plus incrédules, forcées de céder aux touchantes harmonies de la voix humaine. L'église venait au secours de cette créature qui ne la connaissait point. Le curé parut, précédé de la croix tenue par un enfant de chœur, suivi du sacristain portant le bénitier, et d'une cinquantaine de femmes, de vieillards, d'enfants, tous venus pour joindre leurs prières à celles de l'église. Le médecin et le militaire se regardèrent en silence et se retirèrent dans un coin pour faire place à la foule, qui s'agenouilla au dedans et au dehors de la chaumière. Pendant la consolante cérémonie du viatique, célébrée pour cet être qui n'avait jamais péché, mais à qui le monde chrétien disait adieu, la plupart de ces visages grossiers furent sincèrement attendris. Quelques larmes coulèrent sur de rudes joues crevassées par le soleil et brunies par les travaux en plein air. Ce sentiment de parenté volontaire était tout simple. Il n'y avait personne dans la commune qui n'eût plaint ce pauvre être, qui ne lui eût donné son pain quotidien. N'avait-il pas rencontré un père en chaque enfant, une mère chez la plus rieuse petite fille? Il est mort, dit le curé. Ce mot excita la consternation la plus vraie. Les cierges furent allumés. Plusieurs personnes voulurent passer la nuit auprès du corps. Benassis et le militaire sortirent. À la porte, quelques paysans arrêtèrent le médecin pour lui dire: Ah, monsieur le maire, si vous ne l'avez pas sauvé, Dieu voulait sans doute le rappeler à lui. J'ai fait de mon mieux, mes enfants, répondit le docteur. Vous ne sauriez croire, monsieur, dit-il à Genestas quand ils furent à quelques pas du village abandonné dont le dernier habitant venait de mourir, combien de consolations vraies la parole de ces paysans renferme pour moi. Il y a 10 ans, j'ai failli être lapidé dans ce village aujourd'hui désert, mais alors habité par 30 familles. Genestas mit une interrogation si visible dans l'air de sa physionomie et dans son geste, que le médecin lui raconta, tout en marchant, l'histoire annoncée par ce début. Monsieur, quand je vins m'établir ici, je trouvais dans cette partie du canton une douzaine de crétins, dit le médecin en se retournant pour montrer à l'officier les maisons ruinées. La situation de ce hameau dans un fond sans courant d'air, près du torrent dont l'eau provient des neiges fondues, privé des bienfaits du soleil, qui n'éclaire que le sommet de la montagne, tout y favorise la propagation de cette affreuse maladie. Les lois ne défendent pas l'accouplement de ces malheureux, protégés ici par une superstition dont la puissance m'était inconnue, que j'ai d'abord condamnée, puis admirée. Le crétinisme se serait donc étendu depuis cet endroit jusqu'à la vallée. N'était-ce pas rendre un grand service au pays que d'arrêter cette contagion physique et intellectuelle? Malgré son urgence, ce bienfait pouvait coûter la vie à celui qui entreprendrait de l'opérer. Ici, comme dans les autres sphères sociales, pour accomplir le bien, il fallait froisser, non pas des intérêts, mais chose plus dangereuse à manier, des idées religieuses converties en superstition, la forme la plus indestructible des idées humaines. Je ne m'effrayais de rien. Je sollicitais d'abord la place de maire du canton et l'obtins. Puis, après avoir reçu l'approbation verbale du préfet, je fis nuitamment transporter à prix d'argent quelques-unes de ces malheureuses créatures du côté d'Aiguebelle, en Savoie, où il s'en trouve beaucoup et où elles devaient être très bien traitées. Aussitôt que cet acte d'humanité fut connu, je devins en horreur à toute la population. Le curé prêcha contre moi. Malgré mes efforts pour expliquer aux meilleures têtes du bourg combien était importante l'expulsion de ces crétins, malgré les soins gratuits que je rendais aux malades du pays, on me tira un coup de fusil au coin d'un bois. J'allais voir l'évêque de Grenoble et lui demandai le changement du curé. Monseigneur fut assez bon pour me permettre de choisir un prêtre qui pût s'associer à mes œuvres, et j'eus le bonheur de rencontrer un de ces êtres qui semble tomber du ciel. Je poursuivis mon entreprise. Après avoir travaillé les esprits, je déportai nuitamment 6 autres crétins. À cette seconde tentative, j'eus pour défenseurs quelques-uns de mes obligés et les membres du conseil de la commune de qui j'intéressais l'avarice en leur prouvant combien l'entretien de ces pauvres êtres était coûteux, combien il serait profitable pour le bourg de convertir les terres possédées sans titre par eux en communaux qui manquaient au bourg. J'eus pour moi les riches, mais les pauvres, les vieilles femmes, les enfants et quelques entêtés me demeurèrent hostiles. Par malheur, mon dernier enlèvement se fit incomplètement. Le crétin que vous venez de voir n'était pas rentré chez lui, n'avait point été pris, et se retrouva le lendemain seul de son espèce Dans le village où habitaient encore quelques familles dont les individus, presque imbéciles, étaient encore exempts de crétinisme. Je voulus achever mon ouvrage et vins de jour, en costume, pour arracher ce malheureux de sa maison. Mon intention fut connue aussitôt que je sortis de chez moi. Les amis du crétin me devancèrent, et je trouvai devant sa chaumière un rassemblement de femmes, d'enfants, de vieillards qui tous me saluèrent par des injures accompagnées d'une grêle de pierres. Dans ce tumulte, au milieu duquel j'allais peut-être périr victime de l'enivrement réel qui saisit une foule exaltée par les cris et l'agitation de sentiments exprimés en commun, je fus sauvé par le crétin. Ce pauvre être sortit de sa cabane, fit entendre son gloussement et apparut comme le chef suprême de ces fanatiques. À cette apparition, les cris cessèrent. J'eus l'idée de proposer une transaction et je pus l'expliquer à la faveur du calme si heureusement survenu. Mes approbateurs n'oseraient sans doute pas me soutenir dans cette circonstance. Leur secours devait être purement passif. Ces gens superstitieux allaient veiller avec la plus grande activité à la conservation de leur dernière idole. Il me parut impossible de la leur ôter. Je promis donc de laisser le crétin en paix dans sa maison, à la condition que personne n'en approcherait, que les familles de ce village passeraient l'eau et viendraient loger au bourg dans des maisons neuves que je me chargeais de construire, en y joignant des terres dont le prix, plus tard, devait m'être remboursé par la commune. Eh bien, mon cher monsieur, il me fallut 6 mois pour vaincre les résistances que rencontra l'exécution de ce marché. Quelque avantageux qu'il fût aux familles de ce village. L'affection des gens de la campagne pour leur masure est un fait inexplicable. Quelque insalubre que puisse être sa chaumière, un paysan s'y attache beaucoup plus qu'un banquier ne tient à son hôtel. Pourquoi? Je ne sais. Peut-être la force des sentiments est-elle en raison de leur rareté. Peut-être l'homme qui vit peu par la pensée vit-il beaucoup par les choses. Et moins il en possède, plus sans doute il les aime. Peut-être en est-il du paysan comme du prisonnier. Il n'éparpille point les forces de son âme, il les concentre sur une seule idée et arrive alors à une grande énergie de sentiment. Pardonnez ces réflexions à un homme qui échange rarement ses pensées. D'ailleurs, ne croyez pas, monsieur, que je me sois beaucoup occupé d'idées creuses. Ici, tout doit être pratique et action. Hélas! Moins ces pauvres gens ont d'idées, plus il est difficile de leur faire entendre leurs véritables intérêts. Aussi me suis-je résigné à toutes les minuties de mon entreprise. Chacun d'eux me disait la même chose, une de ces choses pleines de bon sens et qui ne souffrent pas de réponse. Ah, monsieur, vos maisons ne sont point encore bâties. Eh bien, leur disais-je, promettez-moi de venir les habiter aussitôt qu'elles seront achevées. Heureusement, monsieur, je fis décider que notre bourg est propriétaire de toute la montagne au pied de laquelle se trouve le village maintenant abandonné. La valeur des bois situés sur les hauteurs put suffire à payer le prix des terres et celui des maisons promises qui se construisirent. Quand un seul de mes ménages récalcitrants y fut logé, les autres ne tardèrent pas à le suivre. Le bien-être qui résulta de ce changement fut trop sensible pour ne pas être apprécié par ceux qui tenaient le plus superstitieusement à leur village sans soleil, autant dire sans âme. La conclusion de cette affaire, la conquête des biens communaux dont la possession nous fut confirmée par le Conseil d'État, me firent acquérir une grande importance dans le canton. Mais, monsieur, combien de soins, dit le médecin, en s'arrêtant et en levant une main qu'il laissa retomber par un mouvement plein d'éloquence. Moi seul connais la distance du bourg à la préfecture, d'où rien ne sort, et de la préfecture au Conseil d'État, où rien n'entre. Enfin, reprit-il, pèse aux puissances de la terre, elles ont cédé à mes importunités. C'est beaucoup. Si vous saviez le bien produit par une signature insouciamment donnée. Monsieur, 2 ans après avoir tenté de si grandes petites choses et les avoir mises à fin, tous les pauvres ménages de ma commune possédaient au moins 2 vaches et les envoyaient pâturer dans la montagne où, sans attendre l'autorisation du Conseil d'État, j'avais pratiqué des irrigations transversales semblables à celles de la Suisse, de l'Auvergne et du Limousin. À leur grande surprise, les gens du bourg y virent poindre d'excellentes prairies et obtinrent une plus grande quantité de lait grâce à la meilleure qualité des pâturages. Les résultats de cette conquête furent immenses. Chacun imita mes irrigations. Les prairies, les bestiaux, toutes les productions se multiplièrent. Dès lors, je pus sans crainte entreprendre d'améliorer ce coin de terre encore inculte et de civiliser ses habitants jusqu'alors dépourvus d'intelligence. Enfin, monsieur, nous autres solitaires, nous sommes très causeurs. Si l'on nous fait une question, l'on ne sait jamais où s'arrêtera la réponse. Lorsque j'arrivais dans cette vallée, la population était de 700 âmes. Maintenant, on en compte 2000. L'affaire du dernier crétin m'a obtenu l'estime de tout le monde. Après avoir montré constamment à mes administrés de la mansuétude et de la fermeté tout à la fois, je devins l'oracle du canton. Je fis tout pour mériter la confiance sans la solliciter ni sans paraître la désirer. Seulement, je tâchais d'inspirer à tous le plus grand respect pour ma personne par la religion avec laquelle je sus remplir tous mes engagements, même les plus frivoles. Après avoir promis de prendre soin du pauvre être que vous venez de voir mourir, je veillais sur lui mieux que ses précédents protecteurs ne l'avaient fait. Il a été nourri, soigné, comme l'enfant adoptif de la commune. Plus tard, les habitants ont fini par comprendre le service que je leur avais rendu malgré eux. Néanmoins, ils conservent encore un reste de leur ancienne superstition. Je suis loin de les en blâmer. Leur culte envers le crétin ne m'a-t-il pas souvent servi de texte pour engager ceux qui avaient de l'intelligence à aider les malheureux? Mais nous sommes arrivés, reprit après une pause Bénassis, en apercevant le toit de sa maison. Loin d'attendre de celui qui l'écoutait la moindre phrase d'éloge ou de remerciement en racontant cet épisode de sa vie administrative, il semblait avoir cédé à ce naïf besoin d'expansion auquel obéissent les gens retirés du monde. Monsieur, lui dit le commandant, j'ai pris la liberté de mettre mon cheval dans votre écurie, et vous aurez la bonté de m'excuser quand je vous aurai appris le but de mon voyage. Ah, quel est-il? Lui demanda Bénassis, en ayant l'air de quitter une préoccupation et de se souvenir que son compagnon était un étranger. Par suite de son caractère franc et communicatif, il avait accueilli Genestas comme un homme de connaissance. « Monsieur, répondit le militaire, j'ai entendu parler de la guérison presque miraculeuse de Monsieur Gravier de Grenoble que vous avez pris chez vous. Je viens dans l'espoir d'obtenir les mêmes soins, sans avoir les mêmes titres à votre bienveillance. Cependant, peut-être la méritais-je. Je suis un vieux militaire auquel d'anciennes blessures ne laissent pas de repos. Il vous faudra bien au moins 8 jours pour examiner l'état dans lequel je suis, car mes douleurs ne se réveillent que de temps à autre, etc. Eh bien, monsieur, dit Bénassis en l'interrompant, la chambre de monsieur Gravier est toujours prête. Venez! Ils entrèrent dans la maison, dont la porte fut alors poussée par le médecin avec une vivacité que Genesta attribua au plaisir d'avoir un pensionnaire. Jacotte! Cria Bénassis. Monsieur va dîner ici. Mais, monsieur, reprit le soldat, ne serait-il pas convenable de nous arranger pour le prix? Le prix de quoi? Dit le médecin. D'une pension? Vous ne pouvez pas me nourrir, moi et mon cheval, sans. Si vous êtes riche, répondit Bénassis, vous paierez bien. Sinon, je ne veux rien. Rien, dit Genesta, me semble trop cher. Mais riche ou pauvre, 10 francs par jour, sans compter le prix de vos soins, vous seront-ils agréables? Rien ne m'est plus désagréable que de recevoir un prix quelconque pour le plaisir d'exercer l'hospitalité, reprit le médecin en fronçant les sourcils. Quant à mes soins, vous ne les aurez que si vous me plaisez. Les riches ne sauraient acheter mon temps. Il appartient aux gens de cette vallée. Je ne veux ni gloire ni fortune. Je ne demande à mes malades ni louange ni reconnaissance. L'argent que vous me remettrez ira chez les pharmaciens de Grenoble pour payer les médicaments indispensables aux pauvres du canton. Qui eût entendu ces paroles jetées brusquement mais sans amertume, se serait intérieurement dit, comme Genesta, voilà une bonne patte d'homme. Monsieur, répondit le militaire avec sa ténacité accoutumée, je vous donnerai donc 10 francs par jour et vous en ferez ce que vous voudrez. Cela posé, nous nous entendrons mieux, ajouta-t-il en prenant la main du médecin et la lui serrant avec une cordialité pénétrante. Malgré mes 10 francs, vous verrez bien que je ne suis pas un arabe. Après ce combat, dans lequel il n'y eut pas chez Bénassis le moindre désir de paraître ni généreux ni philanthrope, le prétendu malade entra dans la maison de son médecin, où tout se trouva conforme au délabrement de la porte et aux vêtements du possesseur. Les moindres choses y attestaient l'insouciance la plus profonde pour ce qui n'était pas d'une essentielle utilité. Bénassis fit passer Genesta par la cuisine, le chemin le plus court pour aller à la salle à manger. Si cette cuisine, enfumée comme celle d'une auberge, était garnie d'ustensiles en nombre suffisant, ce luxe était l'œuvre de Jacotte, ancienne servante du curé, qui disait nous et régnait en souveraine sur le ménage du médecin. S'il y avait en travers du manteau de la cheminée une bassinoire bien claire, probablement Jacotte aimait à se coucher chaudement en hiver, et par ricochet bassinait les draps de son maître, qui, disait-elle, ne songeait à rien. Mais Bénassis l'avait prise à cause de ce qui eût été pour tout autre un intolérable défaut. Jacotte voulait dominer au logis. Et le médecin avait désiré rencontrer une femme qui dominât chez lui. Jacotte achetait, vendait, accommodait, changeait, plaçait et déplaçait, arrangeait et dérangeait tout selon son bon plaisir. Jamais son maître ne lui avait fait une seule observation. Aussi, Jacotte administrait-elle sans contrôle la cour, l'écurie, le valet, la cuisine, la maison, le jardin et le maître. De sa propre autorité, se changeait le linge, se faisait la lessive et s'emmagasinait les provisions. Elle décidait de l'entrée au logis et de la mort des cochons, grondait le jardinier, arrêtait le menu du déjeuner et du dîner, allait de la cave au grenier, du grenier dans la cave, en y balayant tout à sa fantaisie, sans rien trouver qui lui résistât. Benassi n'avait voulu que deux choses, dîner à 6 heures et ne dépenser qu'une certaine somme par mois. Une femme à laquelle tout obéit, chante toujours. Aussi, jacotte riait-elle, rossignolait-elle par les escaliers, toujours fredonnant quand elle ne chantait point, et chantant quand elle ne fredonnait pas. Naturellement propre, elle tenait la maison proprement. Si son goût eût été différent, M. Benassi eût été bien malheureux, disait-elle, car le pauvre homme était si peu regardant qu'on pouvait lui faire manger des choux pour des perdrix. Sans elle, il eût bien gardé souvent la même chemise pendant 8 jours. Mais Jacotte était une infatigable plieuse de linge. Par caractère, frotteuse de meubles, amoureuse d'une propreté toute ecclésiastique, la plus minutieuse, la plus reluisante, la plus douce des propretés. Ennemie de la poussière, elle époussetait, lavait, blanchissait sans cesse. L'état de la porte extérieure lui causait une vive peine. Depuis 10 ans, elle tirait de son maître, tous les premiers du mois, la promesse de faire mettre cette porte à neuf, de rechampir les murs de la maison et de tout arranger gentiment. Et monsieur n'avait pas encore tenu sa parole. Aussi, quand elle venait à déplorer la profonde insouciance de Benassi, manquait-elle rarement à prononcer cette phrase sacramentale par laquelle se terminaient tous les éloges de son maître. On ne peut pas dire qu'il soit bête, puisqu'il fait quasiment des miracles dans l'endroit, mais il est quelquefois bête tout de même, mais bête qu'il faut tout lui mettre dans la main comme à un enfant. Jacotte aimait la maison comme une chose à elle. D'ailleurs, après y avoir demeuré pendant 22 ans, peut-être avait-elle le droit de se faire illusion. En venant dans le pays, Benassis, ayant trouvé cette maison en vente par suite de la mort du curé, avait tout acheté. Murs et terrains, meubles, vaisselle, vin, poules, le vieux cartel à figure, le cheval et la servante. Jacotte, le modèle du genre cuisinière, montrait un corsage épais, invariablement enveloppé d'une indienne brune semée de pois rouges, ficelée, serrée de manière à faire croire que l'étoffe allait craquer au moindre mouvement. Elle portait un bonnet rond plissé, sous lequel sa figure un peu blafarde et à double menton paraissait encore plus blanche qu'elle ne l'était. Petite, agile, la main leste et potelée, Jacotte parlait haut et continuellement. Si elle se taisait un instant et prenait le soin de son tablier pour le relever triangulairement, ce geste annonçait quelque longue remontrance adressée au maître ou au valet. De toutes les cuisinières du royaume, Jacotte était certes la plus heureuse. Pour rendre son bonheur aussi complet qu'un bonheur peut l'être ici-bas, sa vanité se trouvait sans cesse satisfaite. Le bourg l'acceptait comme une autorité mixte, placée entre le maire et le garde champêtre. En entrant dans la cuisine, le maître n'y trouva personne. « Où diable sont-ils donc allés ? » dit-il. « Pardonnez-moi, reprit-il en se tournant vers Genesta, de vous introduire ici. L'entrée d'honneur est par le jardin, mais je suis si peu habitué à recevoir du monde que... Jacotte ! » À ce nom, proféré presque impérieusement, une voix de femme répondit dans l'intérieur de la maison. Un moment après, Jacotte prit l'offensive en appelant à son tour Benassi, qui vint promptement dans la salle à manger. « Vous voilà bien, monsieur, » dit-elle. « Vous n'en faites jamais d'autre. Vous invitez toujours du monde à dîner sans m'en prévenir. Et vous croyez que tout est troussé quand vous avez crié « Jacotte ?» Allez-vous pas recevoir ce monsieur dans la cuisine ? Ne fallait-il pas ouvrir le salon ? Y allumer du feu ? Nicole y est et va tout arranger. Maintenant, promenez votre monsieur pendant un moment dans le jardin. Ça l'amusera, cet homme. S'il aime les jolies choses, montrez-lui la charmille de défunt monsieur. J'aurai le temps de tout apprêter. Le dîner, le couvert et le salon. Oui, mais Jacotte, reprit Benassis, ce monsieur va rester ici. N'oublie pas de donner un coup d'œil à la chambre de M. Gravier. de joie aux draps et à tout, de... N'allez-vous pas vous mêler des draps à présent? Répliqua Jacotte. S'il couche ici, je sais bien ce qu'il faudra lui faire. Vous n'êtes seulement pas entré dans la chambre de Monsieur Gravier depuis 10 mois. Il n'y a rien à y voir. Elle est propre comme mon œil. Il va donc demeurer ici, ce monsieur? Ajouta-t-elle d'un ton radouci. Oui. Pour longtemps? Ma foi, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que cela te fait? Ah, qu'est-ce que cela me fait, monsieur? Ah bien, qu'est-ce que cela me fait? En voilà bien d'une autre! Et les provisions, et tout, et... Sans achever le flux de paroles par lequel, en toute autre occasion, elle eût assailli son maître, pour lui reprocher son manque de confiance, elle le suivit dans la cuisine. En devinant qu'il s'agissait d'un pensionnaire, elle fut impatiente de voir Genesta, à qui elle fit une révérence obséquieuse en l'examinant de la tête aux pieds. La physionomie du militaire avait alors une expression triste et songeuse qui lui donnait un air rude. Le colloque de la servante et du maître lui semblait révéler en ce dernier une nullité qui lui faisait rabattre, quoique à regret, de la haute opinion qu'il avait prise en admirant sa persistance à sauver ce petit pays des malheurs du crétinisme. Il ne me revient pas du tout, ce particulier, dit Jacotte. Si vous n'êtes pas fatigué, monsieur, dit le médecin à son prétendu malade, nous ferons un tour du jardin avant le dîner. Volontiers, répondit le commandant. Ils traversèrent la salle à manger et entrèrent dans le jardin par une espèce d'antichambre ménagée au bas de l'escalier et qui séparait la salle à manger du salon. Cette pièce, fermée par une grande porte-fenêtre, était contiguë au perron de pierre, ornement de la façade sur le jardin. Divisée en 4 grands carrés égaux par des allées bordées de buis qui dessinaient une croix, ce jardin était terminé par une épaisse charmille, bonheur du précédent propriétaire. Le militaire s'assit sur un banc de bois vermoulu, sans voir ni les treilles, ni les espaliers, ni les légumes desquels Jacotte prenait grand soin par suite des traditions du gourmand ecclésiastique auquel était dû ce jardin précieux, assez indifférent à Bénassis. Quittant la conversation banale qu'il avait engagée, le commandant dit au médecin: Comment avez-vous fait, monsieur, pour tripler en 10 ans la population de cette vallée où vous aviez trouvé 700 âmes et qui, dites-vous, en compte aujourd'hui plus de 2 000? Vous êtes la première personne qui m'ait fait cette question, répondit le médecin. Si j'ai eu pour but de mettre en plein rapport ce petit coin de terre, l'entraînement de ma vie occupée ne m'a pas laissé le loisir de songer à la manière dont j'ai fait, en grand, comme le frère Quêteur, une espèce de soupe aux cailloux. Monsieur Gravier lui-même, un de nos bienfaiteurs et à qui j'ai pu rendre le service de le guérir, n'a pas pensé à la théorie en courant avec moi à travers nos montagnes pour y voir le résultat de la pratique. Il y eut un moment de silence, pendant lequel Benassis se mit à réfléchir, sans prendre garde, au regard perçant par lequel son hôte essayait de le pénétrer. Comment cela s'est fait? Mon cher monsieur, reprit-il. Mais naturellement, et en vertu d'une loi sociale d'attraction entre les nécessités que nous nous créons et les moyens de les satisfaire. Tout est là. Les peuples sans besoin sont pauvres. Quand je vins m'établir dans ce bourg, on y comptait 130 familles de paysans, et dans la vallée, 200 feux environ. Les autorités du pays, en harmonie avec la misère publique, se composaient d'un maire qui ne savait pas écrire et d'un adjoint, métayer domicilié loin de la commune, d'un juge de paix, pauvre diable vivant de ses appointements et laissant tenir par force les actes de l'état civil à son greffier, autre malheureux à peine en état de comprendre son métier. L'ancien curé mort à l'âge de 70 ans, son vicaire, homme sans instruction, venait de lui succéder. Ces gens résumaient l'intelligence du pays et le régissaient. Au milieu de cette belle nature, les habitants croupissaient dans la fange et vivaient de pommes de terre et de laitage. Les fromages, que la plupart d'entre eux portaient sur de petits paniers à Grenoble ou aux environs, constituaient les seuls produits desquels ils tirassent quelque argent. Les plus riches ou les moins paresseux semaient du sarrasin pour la consommation du bourg, quelquefois de l'orge ou de l'avoine, mais point de blé. Le seul industriel du pays était le maire, qui possédait une scierie et achetait à bas prix les coupes de bois pour les débiter. Faute de chemin, il transportait ses arbres un à un, dans la belle saison, en les traînant à grand-peine au moyen d'une chaîne attachée au licou de ses chevaux et terminée par un crampon de fer enfoncé dans le bois. Pour aller à Grenoble, soit à pied, soit à cheval, il fallait passer par un large sentier situé en haut de la montagne. La vallée était impraticable. D'ici au premier village que vous avez vu en arrivant dans le canton, la jolie route par laquelle vous êtes venu sans doute ne formait en tout temps qu'un bourbier. Aucun événement politique, aucune révolution n'était arrivée dans ce pays inaccessible et complètement en dehors du mouvement social. Napoléon seul y avait jeté son nom. Il y est une religion, grâce à deux ou trois vieux soldats du pays revenus dans leur foyer et qui, pendant les veillées, racontent fabuleusement à ces gens simples les aventures de cet homme et de ses armées. Ce retour est d'ailleurs un phénomène inexplicable. Avant mon arrivée, les jeunes gens partis à l'armée y restaient tous. Ce fait accuse assez la misère du pays pour me dispenser de vous la peindre. Voilà, monsieur, dans quel état j'ai pris ce canton, duquel dépendent, au-delà des montagnes, plusieurs communes bien cultivées, assez heureuses et presque riches. Je ne vous parle pas des chaumières du bourg, véritables écuries où bêtes et gens s'entassaient alors pêle-mêle. Je passais par ici en revenant de la Grande Chartreuse. N'y trouvant pas d'auberge, je fus forcé de coucher chez le vicaire, qui habitait provisoirement cette maison, alors en vente. De questions en questions, j'obtins une connaissance superficielle de la déplorable situation de ce pays, dont la belle température, le sol excellent et les productions naturelles m'avaient émerveillé. Monsieur, je cherchais alors à me faire une vie autre que celle dont les peines m'avaient lassé. Il me vint au cœur une de ces pensées que Dieu nous envoie pour nous faire accepter nos malheurs. Je résolus d'élever ce pays comme un précepteur élève un enfant. Ne me sachez pas gré de ma bienfaisance. J'y étais trop intéressé par le besoin de distraction que j'éprouvais. Je tâchais alors d'user le reste de mes jours dans quelque entreprise ardue. Les changements à introduire dans ce canton, que la nature faisait si riche et que l'homme rendait si pauvre, devaient occuper toute une vie. Ils me tentèrent par la difficulté même de les opérer. Dès que je fus certain d'avoir la maison curiale et beaucoup de terres vaines et vagues à bon marché, je me vouai religieusement à l'état de chirurgien de campagne, le dernier de tous ceux qu'un homme pense à prendre dans son pays. Je voulus devenir l'ami des pauvres, sans attendre d'eux la moindre récompense. Oh, je ne me suis abandonné à aucune illusion, ni sur le caractère des gens de la campagne, ni sur les obstacles que l'on rencontre en essayant d'améliorer les hommes ou les choses. Je n'ai point fait des idylles sur mes gens, je les ai acceptés pour ce qu'ils sont, de pauvres paysans, ni entièrement bons ni entièrement méchants, auxquels un travail constant ne permet point de se livrer aux sentiments, mais qui parfois peuvent sentir vivement. Enfin, j'ai surtout compris que je n'agirais sur eux que par des calculs d'intérêt et de bien-être immédiat. Tous les paysans sont fils de saint Thomas, l'apôtre incrédule. Ils veulent toujours des faits à l'appui des paroles. Vous allez peut-être rire de mon début, monsieur, reprit le médecin après une pause. J'ai commencé cette œuvre difficile par une fabrique de paniers. Ces pauvres gens achetaient à Grenoble leurs clayons de fromage et les vanneries indispensables à leur misérable commerce. Je donnais l'idée à un jeune homme intelligent de prendre à ferme, le long du torrent, une grande portion de terrain que les alluvions enrichissent annuellement et où l'osier devait très bien venir. Après avoir supputé la quantité de vannerie consommée par le canton, j'allais dénicher à Grenoble quelques jeunes ouvriers sans ressources pécuniaires, habiles travailleurs. Quand je l'eus trouvé, je le décidai facilement à s'établir ici, en lui promettant de lui avancer le prix de l'osier nécessaire à ses fabrications, jusqu'à ce que mon planteur d'oseraies pût lui en fournir. Je lui persuadai de vendre ses paniers au-dessous des prix de Grenoble, tout en les fabriquant mieux. Il me comprit. L'oseraie et la vannerie constituaient une spéculation dont les résultats ne seraient appréciés qu'après 4 années. Vous le savez sans doute, l'osier n'est bon à couper qu'à 3 ans. Pendant sa première campagne, mon vannier vécut et trouva ses provisions en bénéfice. Il épousa bientôt une femme de Saint-Laurent-du-Pont qui avait quelque argent. Il se fit alors bâtir une maison saine, bien aérée, dont l'emplacement fut choisi, dont les distributions se firent d'après mes conseils. Quel triomphe, monsieur! J'avais créé dans ce bourg une industrie. J'y avais amené un producteur et quelques travailleurs. Vous traiterez ma joie d'enfantillage? Pendant les premiers jours de l'établissement de mon vannier, je ne passais point devant sa boutique sans que les battements de mon cœur ne s'accélérassent. Lorsque dans cette maison neuve, à volets peints en verre et à la porte de laquelle était un banc, une vigne et des bottes d'osier, je vis une femme propre, bien vêtue, allaitant un gros enfant rose et blanc au milieu d'ouvriers tous gais, chantant, façonnant avec activité leur vannerie, et commandée par un homme qui, naguère pauvre et hâve, respirait alors le bonheur. Je vous l'avoue, monsieur, je ne pouvais résister au plaisir de me faire vanner pendant un moment en entrant dans la boutique pour m'informer de leurs affaires, et je m'y laissais aller à un contentement que je ne saurais peindre. J'étais joyeux de la joie de ces gens et de la mienne. La maison de cet homme, le premier qui crut fermement en moi, devenait toute mon espérance. N'était-ce pas l'avenir de ce pauvre pays, monsieur, que déjà je portais en mon cœur, comme la femme du vannier portait dans le sien son premier nourrisson? J'avais à mener bien des choses de front, je heurtais bien des idées. Je rencontrais une violente opposition fomentée par le maire ignorant, à qui j'avais pris sa place, dont l'influence s'évanouissait devant la mienne. Je voulus en faire mon adjoint et le complice de ma bienfaisance. Oui, monsieur, ce fut dans cette tête la plus dure de toutes que je tentai de répandre les premières lumières. J'ai pris mon homme, et par l'amour-propre et par son intérêt. Pendant 6 mois, nous dînâmes ensemble, et je le mis de moitié dans mes plans d'amélioration. Beaucoup de gens verraient dans cette amitié nécessaire les plus cruels ennuis de ma tâche. Mais cet homme n'était-il pas un instrument et le plus précieux de tous? Malheur à qui méprise sa cognée ou la jette même avec insouciance. N'aurais-je pas été d'ailleurs fort inconséquent si, Voulant améliorer le pays, j'eusse reculé devant l'idée d'améliorer un homme. Le plus urgent moyen de fortune était une route. Si nous obtenions du conseil municipal l'autorisation de construire un bon chemin d'ici à la route de Grenoble, mon adjoint était le premier à en profiter, car au lieu de traîner coûteusement ses arbres à travers de mauvais sentiers, il pourrait, au moyen d'une bonne route cantonale, les transporter facilement, entreprendre un gros commerce de bois de toute nature et gagner, non plus 600 malheureux francs par an, mais de belles sommes qui lui donneraient un jour une certaine fortune. Enfin convaincu, cet homme devint mon prosélyte. Pendant tout un hiver, mon ancien maire alla trinquer au cabaret avec ses amis et sut démontrer à nos administrés qu'un bon chemin de voiture serait une source de fortune pour le pays en permettant à chacun de commercer avec Grenoble. Lorsque le conseil municipal eut voté le chemin, j'obtins du préfet quelque argent sur les fonds de charité du département afin de payer les transports que la commune était hors d'état d'entreprendre faute de charrettes. Enfin, pour terminer plus promptement ce grand ouvrage et en faire apprécier immédiatement les résultats aux ignorants qui murmuraient contre moi en disant que je voulais rétablir les corvées, j'ai, pendant tous les dimanches de la première année de mon administration, constamment entraîné, de gré ou de force, la population du bourg, les femmes, les enfants et même les vieillards, en haut de la montagne, où j'avais tracé moi-même sur un excellent fond le grand chemin qui mène de notre village à la route de Grenoble. Des matériaux abondants bordaient fort heureusement l'emplacement du chemin. Cette longue entreprise me demanda beaucoup de patience. Tantôt, les uns, ignorant les lois, se refusaient à la prestation en nature. Tantôt, les autres, qui manquaient de pain, ne pouvaient réellement pas perdre une journée. Il fallait donc distribuer du blé à ceux-ci, puis aller calmer cela par des paroles amicales. Néanmoins, quand nous eûmes achevé les deux tiers de ce chemin, qui a 2 lieues de pays environ, les habitants en avaient si bien reconnu les avantages que le dernier tiers s'acheva avec une ardeur qui me surprit. J'enrichis l'avenir de la commune en plantant une double rangée de peupliers le long de chaque fossé latéral. Aujourd'hui, ces arbres sont déjà presque une fortune et donnent l'aspect d'une route royale à notre chemin, toujours sec par la nature de sa situation et si bien confectionné d'ailleurs qu'il coûte à peine 200 francs d'entretien par an. Je vous le montrerai, car vous n'avez pu le voir. Pour venir, vous avez sans doute pris le joli chemin du bas, une autre route que les habitants ont voulu faire eux-mêmes, il y a 3 ans, afin d'ouvrir des communications aux établissements qui se formaient alors dans la vallée. Ainsi, monsieur, il y a 3 ans, le bon sens public de ce bourg, naguère sans intelligence, avait acquis les idées que 5 ans auparavant, un voyageur aurait peut-être désespéré de pouvoir lui inculquer. Poursuivons. L'établissement de Montvanier était un exemple donné fructueusement à cette pauvre population. Si le chemin devait être la cause la plus directe de la prospérité future du bourg, il fallait exciter toutes les industries premières afin de féconder ces deux germes de bien-être. Tout en étant le planteur d'oseraies et le faiseur de paniers, tout en construisant ma route, je continuais insensiblement mon œuvre. J'eus 2 chevaux. Le marchand de bois, mon adjoint, en avait 3. Il ne pouvait les faire ferrer qu'à Grenoble quand il y allait. J'engageai donc un maréchal ferrant qui connaissait un peu l'art vétérinaire à venir ici en lui promettant beaucoup d'ouvrages. Je rencontrai le même jour un vieux soldat assez embarrassé de son sort, qui possédait pour tout bien 100 francs de retraite, qui savait lire et écrire. Je lui donnai la place de secrétaire de la mairie. Par un heureux hasard, je lui trouvai une femme, et ses rêves de bonheur furent accomplis. Monsieur, il fallut des maisons à ces deux nouveaux ménages, à celui de Montvanier.